Donc loin de moi, l'idée de parler de moi, mais bon, moi je vais vous dire, les moi-je dans la vie, au risque de choquer, moi ça me plaît, pas seulement quand on parle de moi, mais en général quand on parle de soi, ça me plaît, parce que c'est pour ça, moi, que je leur demande de venir, mes invités, pour qu'ils prennent le risque de raconter leur vision du monde, leur perception de l'art, leur propre trajectoire, leur moi, leur ça, leur surmoi, pour qu'ils parlent en leur nom, en leur goût, en leur personne, ce qu'au sein de l'entretien, moi personnellement je m'interdis, vous pensez bien, c'est pas mon rôle, puis ça n'intéresserait que moi, mais leur point de vue à eux, leur approche sensible de l'actualité, qu'il s'agisse de la nôtre ou de la leur ou de la mienne d'ailleurs, ça m'intéresse. Parce que c'est l'un des privilèges de l'artiste que d'avoir le droit de dire essentiellement ce qu'il pense, au risque de l'ineptie parfois, de l'approximation ou carrément de l'anarchie. Et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Après tout, c'est qu'un artiste, il parle pour lui, c'est ce que vous pouvez vous dire. Mais moi, je trouve que ça fait du bien à l'heure où la parole est figée, contrôlée, suturée. Ça fait du bien que ça pique un poil, que ça parte dans tous les sens, que ça choque, que ça chamboule, que ça chichite. Même parfois, ça fait du bien qu'en lieu et place de discours techniques, bah on parle un peu de soi, de sa famille, de son parcours, de son positionnement, de je ne sais quoi. Encore une fois, je parle pour moi. Hein. Moi.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, il se trouve que mon invité d'aujourd'hui parle d'elle. Elle a fait de sa vie l'un des matériaux de son œuvre, son nouveau film Ma mère est folle. Et avec Fanny Ardant et Vianney, sera en salle le 5 décembre, un Thelma et Louise, version mère-fils, où l'on passe son temps à se raconter des histoires. Bonjour Diane Curis.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on ne fait jamais autre chose que de parler de soi, somme toute?
En ce qui me concerne, c'est le cas de tous mes films. En gros, j'ai fait que raconter ma vie finalement dans les films.
Et à quel moment est-ce que vous l'avez compris, ça, vous qui avez assez tardivement assumé la dimension autobiographique de votre travail?
Je crois que j'ai compris assez vite que c'était mon parcours et ma vie et la vie de ma famille, de mes proches qui m'intéressaient le plus. Et oui, j'ai eu l'impression que je savais que faire ça, quoi, inventer purement une histoire ou me mettre dans les pas de quelqu'un d'autre ou dans la vie de quelqu'un d'autre, c'était difficile. Je l'ai fait avec Sagan. J'ai fait un film qui racontait la vie d'une autre, vraiment. Mais j'ai l'impression que je racontais ma vie en racontant la sienne. C'était
bizarre. Qu'est-ce que vous racontiez de vous?
Je sais pas. J'étais le personnage. Quand on écrivait, je m'identifiais complètement. Donc, je suis devenue tous mes personnages, y compris les personnages d'hommes.
N'empêche, ça donne un statut particulier au film que vous réalisez. Diane Curis en fait des sortes de tremplin pour une exploration de soi. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, en fin de compte, en faisant des films tout au long de cette trajectoire?
Oh là là. Je crois qu'on n'apprend pas grand-chose. On avance. On essaie de faire moins d'erreurs, mais au fond, j'ai appris que ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était les rapports humains, c'était la famille, c'était l'amour. Je parle que de ça, je parle que de ce qui nous arrive. Et aussi, je situe souvent les films dans des contextes. Alors, oui. J'ai fait beaucoup de films d'époque. Au début, je pensais que je pouvais faire que des films d'époque. Et ce que j'appelais l'époque, c'était les années 40, les années 50, puisque c'était la vie de mes parents que je racontais. Et puis après, je me suis lancée pour la première fois avec un film qui s'appelait Après l'amour avec Isabelle Huppert et Bernard Giraudot. Pour la première fois, je faisais un film contemporain et j'avais très peur parce que je me disais, est-ce que je vais savoir parler d'aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai su, je ne sais pas si le film a plu, je crois qu'un peu, mais j'avais l'impression que je me déshabille, enfin, je rentrais dans le monde de ce moment-là. Et c'était très compliqué pour moi.
C'est intéressant que vous parliez de vos parents, comme si cette histoire familiale était matière à fiction, fiction originelle. En quoi, Diane Curis?
Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que j'avais une histoire particulière. Vous savez, on est tous comme ça, entre guillemets, les créateurs, les artistes, on a l'impression qu'on est le nombril du monde. Mes histoires d'enfance, c'était pas des contes de fées. On me racontait comment mes parents avaient échappé aux Allemands pendant la guerre. Donc c'était des histoires qui étaient où mes parents étaient les héros de cette histoire et c'était ça qui me berçait la nuit, qui me faisait à la fois peur et rêver d'une certaine façon.
Donc, c'est le récit fondateur.
C'est ça, je crois.
Quel traumatisme est-ce que ça a constitué pour vous, leur divorce, Diane Curis? Le divorce qui est omniprésent, il faut le dire, dans votre cinéma et votre dernier film, Ma mère est folle, n'en fait pas du tout exception.
Oui, c'est encore une femme qui élève son fils toute seule. Le divorce a été fondateur, et puis je dirais que au-delà du divorce, c'est ma situation d'enfant, la deuxième. J'avais une sœur, j'étais la petite, et je me sentais mal aimée, pas aimée. Je me sentais différente, et je pense que le divorce a été évidemment la cassure première. J'avais 6 ans, et puis j'ai fait 4 films sur ce sujet-là. Alors du point de vue des enfants, ça c'était La Baule les Pins, oui. Diabo le Monde, c'était deux petites filles qui allaient à l'école au lycée Jules Ferry à Paris dans les années 60, élevées par une mère séparée, qui
c'est vrai.
Fraîchement séparée. J'ai fait un film qui s'appelait Coup de Foudre, où j'ai réuni mes parents en essayant d'imaginer comment c'était quand j'étais petite. Et puis j'en ai fait un dernier qui s'appelait Pour une femme, et celui-là, il racontait la vie de mes parents avant ma naissance. Et en écrivant ce film-là, Pour une femme, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Duvauchel, j'ai trouvé la véritable source, origine de mon malheur. C'est que je pense, alors j'ai découvert, et il n'y a que moi qui l'ai découvert, et ça n'intéressera peut-être personne d'autre, que j'étais sans doute pas la fille de mon père, que j'étais la fille de son frère. Et comme les deux se ressemblaient beaucoup, il y a eu mystère, il y a eu non-dit. Et je pense qu'avec ce dernier film-là, j'ai bouclé la boucle, le quatuor de ma saga familiale. Mais c'était très important que je le découvre.
C'est quand même assez formidable de vous recevoir, Diane Curis, parce que c'est l'occasion de se replonger dans cette filmographie passionnante, une filmographie placée sous le signe de la famille, de l'amour, de l'intime. On s'est dit que d'un point de vue sonore, ça donnerait quelque chose comme ça.
Mademoiselle ?
Un diable m'entourait. Et il m'a dit de me coucher sur le lit, toute nue.
Ça, c'est pas vrai.
Je te jure que c'est vrai.
Mais il y a eu Sharon quand même. Tous ces gens qui se connaissaient pas et qui marchaient vers quelque chose. Et c'était vers un cimetière.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets.
Le prix de la critique est attribué à Mademoiselle Françoise Sagan.
Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ?
Je pouvais pas.
J'ai plus envie de partir maintenant.
Écoute, ma chérie, c'est juste pour 2 semaines. C'est pas long, 2 semaines. Vous serez avec Odette et moi, j'arrive le 15.
Dépêchez-vous, il va partir.
Allez.
Mimi. Maman, mais on part, qu'est-ce que tu fais? Maman, je peux partir sans toi, maman.
Je vous dis merde.
Des premières blessures de ton cœur.
Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Et elle aussi elle-même. L'histoire, c'est ça. Frédéric aime Anne. Et Anne aime Frédéric, seulement voilà, ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est défendu.
Ça, il est culotté quand même. Je vais divorcer.
Merde.
Bon, alors je rappelle qu'ils sont une interrogation écrite lundi sur le cours qu'on vient de voir aujourd'hui.
Diane Curis, et on a reconnu aussi bien Diabo le Monde que Sagan, ou encore La Baule les Pins, Cocktail Molotov, Coup de Foudre dont vous parliez. L'un des points communs de tous ces films, Diane, c'est quand même qu'ils ont à cœur de montrer des femmes libres, des femmes émancipées. Ça saute à l'œil quand on entend ce sonore. Qu'est-ce que c'est pour vous une femme libre? Tiens.
C'est des femmes de... Disons que déjà, c'est des femmes de ma génération. Nous, on a pris notre liberté en 68, en gros, on va dire ça. Moi, j'avais 20 ans. Donc c'est quand même, je permettrai à personne de dire que c'est pas le plus bel âge pour vivre mes 68.
C'est vrai.
C'était extraordinaire. J'étais à Paris et si j'étais pas sur les barricades, j'y étais le matin après la guerre de la nuit. Et c'est le moment de liberté. Dans Cocktail Molotov, d'ailleurs, c'est ça. C'est ce que je l'ai revu parce qu'on l'a numérisé il y a pas longtemps. Il est ressorti cette année. Il y a un DVD qui sort et j'ai revu le film et je me suis dit mince, j'avais vraiment capté l'air du temps, j'avais vraiment capté ce que c'était mes 68, pas politique, culturel, les mœurs, tout bougeait. La liberté, on l'a prise là, mais on l'a héritée, je crois, des mamans de l'après-guerre, enfin de celles qui ont vécu les années 50, les premières qui divorçaient. Donc une femme libre, c'est une femme qui n'attend pas qu'on lui dise où, comment et quoi faire.
Votre mère, elle était libre?
Ouais.
Tiens.
Ouais, elle a pris sa liberté. Ma mère, elle a pris sa liberté parce qu'elle avait vécu la guerre. Elle était orpheline à 20 ans et mon père l'a sauvée de la mort, l'a sauvée des camps. Mais en même temps, c'était un mariage blanc, donc elle l'a aimé pendant 10 ans. Puis au bout de 10 ans, elle s'est dit, c'est pas ça ma vie. Et elle est partie, elle a pris ses deux filles sous le bras et elle m'a montré, dans la douleur, hein, ce que c'était qu'une femme libre, effectivement.
C'est la plus belle leçon, peut-être.
La leçon des mamans, oui, les mères et les enfants, c'est elles qui leur montrent le chemin.
Alors, le personnage de mère dans votre nouveau film, elle s'appelle Nina, elle est jouée par Fanny Ardant, et elle incarne une génération de femmes post-68arde. Qu'est-ce qu'il incarne, ce personnage, pour vous?
Justement, une femme qui n'est pas dans les clous. C'est une femme qui me plaît. C'est une femme qui ressemble à Fanny Ardant, d'ailleurs. C'est une femme qui ne fait rien dans la norme. Et c'était intéressant, d'ailleurs, le rapport avec Vianney, qui lui, il est plus dans les clous qu'elle.
Qui joue son fils.
C'est lui qui joue. Elle est complètement immature et lui, il joue la maturité. Mais maman, tu peux pas faire ça. Il est horrifié par sa mère. Et puis, l'histoire, c'est comment il va réapprendre à l'aimer et à la regarder et à l'accepter surtout.
Mais Diane, quand on sait que c'est votre fils qui a écrit le scénario, est-ce qu'on se dit pas qu'il y a quelque chose de vous dans cette mère?
Il y a quelque chose de nous dans les deux personnages. En effet, c'est avec Sacha Sperling qui est mon fils. Il l'a écrit avec son co-scénariste Pietro Caracciolo et tous les deux sont partis sur la base d'une idée qu'on a eue avec Sacha, qui était allez, on va se raconter un peu nous, mais on va délirer. Je suis pas cette mère, pas littéralement, mais on a mis de nous dans les personnages. Bien sûr, il a mis de nous dans les personnages.
Le film s'appelle Ma mère est folle. Quelle est votre folie?
Ma folie, c'est d'appeler un film comme ça. Quand j'étais petite, ma mère, un jour, je lui ai dit, t'es complètement folle. Elle m'a, mais j'ai cru que je l'avais poignardée. C'était un crime de lèse-majesté épouvantable. Et curieusement, des années plus tard, un jour, mon fils m'a dit, mais t'es folle. Et ça m'est revenu comme une bouffée. Et je me suis pas énervée, j'ai rigolé. Et je pense que le film est né de là.
Dans quelle mesure est-ce que faire un film, Diane Curie, c'est un acte de folie?
Oui, c'est à la fois un acte de folie parce que, surtout dans mon cas, parce que moi je raconte, mais je me raconte. Alors, c'est quand ma mère a lu le scénario de Diabolo Mente, elle m'avait dit, mais ça va intéresser qui? Et en fait, ça a intéressé beaucoup de monde. Oui. Parce que c'est de la folie d'aller faire cette introspection, ce travail de recherche sur soi. Dans mon cas, c'est la folie un tournage, c'est un débarquement en Normandie, c'est tout ce qu'on veut. Et en même temps, c'est un métier passionnant, c'est un métier merveilleux. Donc, faut être dingue, surtout par les temps qui courent, quand les salles de cinéma sont si emplies de films que quel choix on va faire, pourquoi est-ce qu'on va aller voir ce film ou tel autre. C'est de la folie, et en même temps, c'est une folie qui est douce et qui est belle et qui est généreuse parce que on se remet en question. À chaque film, on repart à zéro. On est tout nu et on y va et on va se présenter aux gens. Vous aimez celui-là? Oui, non, c'est pas facile.
Et vous écartez les bras, oui. Comme si vous ouvriez un imperméable invisible. Diane Curie, c'est très flippant. Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui n'est pas folle du tout, qui n'est même pas folle, la guêpe.
C'est la culture.
C'est effectivement la culture. Et son actualité, cafard et pas piqué des hannetons. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 22 novembre?
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Elle court, la littérature. Le Marathon des mots inaugure aujourd'hui son édition automnale à Toulouse Métropole. Jusqu'au 25, l'événement propose un focus sur les lettres de Flandre et du Pays-Bas. Programme des rencontres, des débats et des lectures avec notamment Chantal Thomas, Hugues Jallon, Pauline Delabroix à l'art. Et puis, grâce à Jacques Bonafé, qui lira une sélection de textes choisis, le Marathon revient sur l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 63, qui n'a jamais cessé, vous le savez, de fasciner écrivains et romanciers. Darla, Dirla, Dada, autre anniversaire, autre ambiance, hein, deux salles, deux ambiances. Aujourd'hui, on célèbre aussi les 40 ans de la sortie du film culte de la troupe du Splendide, Les Bronzés. Patrice Lecomte, le réalisateur, interrogé récemment dans le cadre d'un documentaire, a révélé son idée pour un épisode 4. Réunir tout le monde dans une maison de retraite, filmée en noir et blanc, avec des gens très très méchants à la Tati Daniel. Comme on dit sur un malentendu, ça peut marcher.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel.
Alain, toute la journée, Bachung à l'honneur sur notre antenne. En avant-première jusqu'à ce soir, France Inter vous fait découvrir en amont l'album posthume du rocker incandescent disparu en 2009. Ma peau va te plaire, Les Salines, Nos âmes à l'abri. Ces chansons, Alain Bachung les a toutes enregistrées entre 2002 et 2008 et laissées à l'état de maquette. On les découvre aujourd'hui telles quelles, dépouillées, bouleversantes. Rendez-vous à 9h37 pour un titre inédit.
Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune.
Toi, le jeune, puissant, félin, redoutable, tu vas pouvoir voter au César. Un an après avoir créé le César du public, l'Académie a annoncé la création d'un prix des lycéens. Le trophée sera attribué dès cette année par 2000 élèves de terminale qui devront choisir leur lauréat parmi les longs métrages nommés au César du meilleur film. Le prix sera remis le 25 janvier en marge de la cérémonie officielle et permettra ainsi de rappeler que le cinéma, le jeune, c'est aussi pour toi. Diane Curie, invitée de Boomerang ce matin. Un prix des lycéens au César, c'est une bonne idée.
Bah oui, on pourrait faire un prix des vieux aussi.
Et pareil, effectivement, on ne sait pas pour qui il voterait. Ça serait peut-être le même film.
Des chauves, des petits, des roux.
Ah, vous êtes ironique du coup. Vous pensez que ce n'est pas une
non,
bonne idée.
Non, si, bien sûr, les prix c'est bien.
Bon, on a compris, effectivement. On est à 2 semaines de la sortie de votre nouveau film « Ma mère est folle ». C'est l'histoire d'une femme, on l'a compris, assez excentrique, complètement fauchée, qui, pour se refaire, se lance dans le trafic de drogue et profite de quelques largesses d'une amie richissime qui est jouée par Ariel Dombal. Alors évidemment, le film ne constitue en aucun cas une analyse des inégalités sociales aujourd'hui. Et pour autant, qu'est-ce qu'il incarne, ce personnage joué par Ariel Dombal dans la France d'aujourd'hui, pour vous ?
C'est un portrait d'une femme et c'est une mère avant tout. C'est un film qui, au fond, c'est un film pour les mamans et pour les fils, surtout. Les filles peuvent s'y reconnaître, mais je pense qu'il y a un rapport très particulier entre une mère et son fils. Dans mon cas, il est très particulier, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut, pressentir, imaginer. Il y a eu peu de films sur les mères et les fils. Il y a Mommy.
Oui, de Xavier Dolan.
Voilà, de Xavier Dolan. Il y a le film de Louis Malle. Le film de Louis Malle, allons.
Ça va nous revenir.
Le souffle au cœur.
Voilà.
Et entre ça, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité. Donc, le film est ancré dans une réalité. Mais pas sociale, on va dire. On est un peu dans une fantaisie. Et en même temps, ces gens-là, elle a plus un rond. Elle était riche, elle est pauvre. Son amie richissime est généreuse. On est un peu dans la fiction. Et puis, personnage joué par Patrick Chesnay aussi. C'est un personnage un petit peu fantaisiste, on va dire.
C'est intéressant, n'empêche, ça dit quelque chose sur la France toujours. C'est toujours le cas, à mon sens, au cinéma. Dans quelle France est-ce que vous aimeriez vivre, vous, Diane Curis ?
Dans une France un peu apaisée. C'est bête comme mot, mais
non.
J'aimerais bien que... J'ai pas du tout de regrets des époques révolues, mais j'ai un peu envie, oui, que ça soit plus calme. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, je suis pas pessimiste.
Je vous pose la question. Parce que vous parlez de fiction, et c'est vrai que vous avez été élevé dans une famille de communistes convaincus. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, le communisme, quand vous étiez petite, plus tard d'ailleurs, en tant que jeune fille?
C'est mon père qui était communiste. Ma mère ne l'était pas. Donc, c'est peut-être aussi source de conflits. C'est pour ça qu'elle est partie, je crois pas. ça représente énormément. C'est-à-dire que c'est des valeurs qu'on vous inculque. La générosité, le partage, l'inégalité, on est très pour, on a un sentiment d'injustice très très à fleur de peau, et c'est ça que ça m'a appris, je pense. C'est important.
Vous avez eu l'impression à un moment dans votre vie de vivre cet idéal-là?
Je suis partie, quand j'avais 17 ans, vivre dans un kibboutz. Je m'en foutais un peu d'Israël. Moi, c'était pas ça. Mon truc, c'était d'aller dans un endroit où il y aurait pas d'argent, où on travaillerait, où on cultiverait la terre. Je suis arrivée, on m'a dit, voilà, on va te mettre à la récolte des oranges. Et j'ai dit, mais combien de temps ça va durer? On m'a dit, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'oranges sur les arbres. Et ça a duré 6 mois. C'était affreux.
Qu'est-ce qu'ils disaient, vos parents, de ça, quand vous êtes partie?
Ils étaient pas très pour. Ils trouvaient ça bizarre. Mon père était très anti. Et ma mère était assez pour. Elle aimait bien ce pays. Elle avait raison. C'était un très beau pays. Mais j'y allais vraiment pour l'égalité. C'était avant mai 68. Donc, le retour à la terre, ça a parlé à beaucoup de gens après. Voilà. Mes valeurs sont là.
Et à l'époque, qu'est-ce qui vous différenciait d'eux, de vos parents? Qu'est-ce qui vous éloignait d'eux?
J'ai vécu tout ce mouvement hippie, on a fumé nos premiers joints, enfin je veux dire, tout ça était d'une évidence pour nous, quoi. Le voyage, je représentais une autre forme de liberté, mais une forme d'insouciance aussi, parce qu'il n'y avait pas cette perspective terrible, voilà, il va falloir trouver du travail, il va falloir trouver quelque chose qui te fasse vivre. L'argent n'était pas un problème, c'était pas un but dans la vie.
Non, parce que mine de rien, et c'est encore le cas dans Ma mère est folle, vos films ne cessent d'aborder la question du conflit et des incompréhensions intergénérationnelles. Et je me pose la question, quand est-ce qu'on arrête peut-être d'en vouloir à ses parents, Diane Curis?
Justement, le film le dit, à la fin, il y a cette phrase où le personnage interprété par Vianney dit « J'ai fini par regarder ma mère comme une femme que j'aurais rencontrée tout simplement et que j'aurais aimée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire comme une personne et pas comme une mère. Le jour où on pardonne à ses parents, c'est ce jour-là, quand on les regarde comme des êtres humains et quand on les regarde presque justement à égalité. »
Je pense à un autre de vos films où Sylvie Testu disait, c'était le film qui s'appelait « Pour une femme », « On regarde enfin ses parents comme un homme et une femme qu'on aurait croisé dans nos vies et qu'on aurait aimé simplement pour ce qu'ils étaient. »
C'est exactement ça.
En fait, vous n'avez écrit que là-dessus, si ça se trouve.
C'est la même fin. Je crois, oui, pour pardonner à ses parents. Et quand on pardonne à ses parents, on finit par se pardonner à soi-même.
On va reparler d'amour, de famille, de parents, de cinéma, juste après. Ah tiens, Elvis, je trouve ça sympa, moi, quand même, un jeudi matin. C'est bon, ça fait du bien. En plus, il parle de sa maman, Elvis, en l'occurrence. Vous êtes sur France Inter, avec Diane Curis. Vous écoutez Boomerang, on est donc jeudi.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway, do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, anyway, do.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
En fait, il n'y a qu'à la regarder pour savoir que tout ira bien. Avec ses grands yeux bleus, son sourire bienveillant, ses reflets un peu rouquins, on a envie qu'elle nous prenne sur ses genoux pour nous raconter une histoire qui commencerait par « Il était une fois », un conte russe. Tiens, avec des babouchkas, des baba yaga, un petit peu de vodka, ça fait jamais de mal. Tout en noir, ce matin, la cinéaste Diane Curis, invitée de Boomerang. Votre nouveau film, Diane, s'appelle « Ma mère est folle » et son personnage principal, joué par Fanny Ardant, c'est une sorte d'artiste qui dit à un moment très touchant qu'elle a raté sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réussir sa vie ou la rater, tiens?
J'ai l'impression que ça revient au même, à la fin on va tous au même endroit.
Hein. Ça fait deux fois que ça revient dans l'émission, attention.
Mais c'est comme ça. Non, elle dit qu'elle a raté sa vie à ce moment-là dans le film. Il y a un moment très émouvant, une scène très émouvante où elle est sur le quai d'une gare et elle fait le bilan quelque part. Et en fait, elle est extrêmement sincère à ce moment-là. Et puis la minute d'après, elle est capable d'aller danser le tango et de tout oublier. Donc c'est ça une femme justement comme Fanny Ardant, comme ce personnage de Nina. C'est une femme capable de grande, profonde vérité, de profonde douleur. Et puis l'instant d'après, allez, un verre de vodka et elle oublie, ou une bière.
Comment vous aviez envie de réussir votre vie, vous, quand vous étiez jeune? En faisant quoi?
Je savais qu'il fallait que je m'exprime. Moi, je voulais être comédienne. Je pensais que j'étais faite pour ça. Et je l'ai fait d'ailleurs pendant quelques années. Et puis, c'était une telle frustration que j'ai arrêté assez vite et j'ai écrit Diabolomante. Ça m'a sauvée.
Pourquoi c'était une frustration? Quelle actrice est-ce que vous étiez?
Bah, j'étais une actrice qu'on n'appelait pas pour travailler. Donc, il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre le téléphone toute la journée.
Vous avez quand même joué chez Fellini dans le Casanova.
Oui, mais c'est pareil, c'était un petit rôle. Donc, je me disais, ça n'arrivera pas par là. Et quand j'étais petite, j'avais écrit sur un petit papier et j'avais caché dans la doublure de mon manteau, un jour je serai célèbre. Et ma sœur l'avait trouvé, et elle avait ri comme vous, voilà. Elle avait ricané.
C'est très 2019. Hein.
Mais ça m'avait énormément donné, ça m'a donné des ailes finalement. Au fond, c'est pour prouver à ma sœur que j'étais capable, que j'ai fait ce métier.
Capable d'être célèbre?
Ouais, c'était. Quand je parle de célébrité, c'est pas la célébrité, c'est la reconnaissance. C'est pas parler dans mon coin et que ce soit pas entendu, voilà. C'est partager. Alors, faire des films, c'est partager avec le plus grand nombre, si possible, votre vision pour vous sentir moins seul.
On comprend mieux aussi, Diane, ce besoin, cette envie, cette urgence de devenir comédienne. Ça procédait d'un désir, je suppose. De quel besoin, tiens, d'être reconnue, mais d'être admirée aussi, peut-être d'être aimée.
À ce moment-là, c'était d'être regardée, simplement. J'étais pas regardée. J'étais vraiment le vilain petit canard, on me regardait pas. Je ne comptais pas. Donc, d'abord comédienne, c'était il faut que je compte, il faut que j'existe, il faut que je sois dans la lumière. Et puis quand la lumière a été un peu fluctuante et qu'elle n'arrivait pas vraiment à m'éclairer, je suis passée par l'écriture et finalement l'écriture m'a sauvée parce que en écrivant Diabolomante, je savais pas que mon destin allait être tracé. J'écrivais ma petite histoire de des vacances aux vacances, une année scolaire, c'était tout bête. Et le film a été un tel
vertige.
Oui, vertige, on va dire exactement. Que ça m'a propulsée. Je suis devenue metteur en scène en 3 mois. Voilà.
En 3 mois, ça.
Bah oui, le temps de faire le film et de le sortir. Je crois, je l'ai tourné en été. Il est sorti en décembre, comme Ma mère est folle. Il est sorti là. Ça a été le même laps de temps. J'ai tourné la même année qu'il est sorti.
En tout cas, le point commun entre ces deux métiers, c'est quand même le cinéma. Quand est-ce que vous avez rencontré le cinéma, Diane Curis?
J'ai commencé à faire des petits rôles au cinéma quand j'étais comédienne.
C'est... Mais en tant que spectatrice.
En tant que spectatrice. Ah, Peter Pan, le premier film. Je l'ai vu, oui, quand j'avais, je sais pas, 6 ans, je crois, 7 ans.
Donc après le divorce de vos parents.
Ouais. C'est le premier film que je vois. Puis après, le cinéma m'a nourri parce que c'était évidemment la seule distraction qu'on avait à l'époque. Pas de télévision, pas les livres et c'est tout. Et donc j'allais au cinéma à peu près 2-3 fois par semaine. Et les cinémas étant permanents, enfin on pouvait revoir la séance après, je restais 2 ou 3 séances quelquefois quand j'avais le droit.
C'est vrai ?
Ouais. Donc j'allais dans mon quartier, j'habitais le 18e arrondissement et j'allais toute seule à partir de 10 ans au cinéma.
Ça vous arrivait de sécher les cours pour vous rendre à une séance que vous ne pouviez pas rater ?
Non, je crois pas. Le lycée était trop sévère, on n'avait pas le droit de sécher les cours, c'était très compliqué. Je suis arrivée une fois à sortir par une petite porte dérobée du lycée Jules Ferry, avec une paire de ciseaux.
Pour aller voir quoi ?
Bah, acheter des bonbons.
Bravo ! Quel lieu est-ce que c'est pour vous la salle de cinéma, Diane ? La réalisatrice et comédienne Emmanuelle Berco, invitée de Boomerang lundi, nous disait « c'est le lieu où elle préfère être ».
Ça dépend du film. Il y a des films qu'on n'a pas envie de voir avec du monde, et puis il y a des films qui ont besoin de la foule. Il y a des films, bon, les comédies, elles ont besoin que les gens rient autour de vous. L'émotion, c'est plus secret. On n'a pas forcément envie de pleurer devant tout le monde. Mais le cinéma, oui, bien sûr que la salle est indispensable. Je ne sais pas si elle continuera à exister longtemps.
Ça vous inquiète, ça ?
Oui, beaucoup, bien sûr. Ouais. Moi, je vais moins au cinéma qu'avant, évidemment.
Et c'est vrai que c'est une question qu'on a envie de poser à tous les cinéastes. Comment est-ce que vous vivez le fait qu'aujourd'hui un film se regarde sur petit écran, qu'on n'ait plus besoin d'y aller en fin de compte ?
Mais moi je le vis pas si mal. Là, j'encourage tout le monde à aller le 5 décembre voir mon film, évidemment, parce que si ils y vont pas le 5 décembre, le film il n'existera plus au bout d'une semaine. Donc on est entré dans cette folie là, vraiment. On fait tout ce travail, on réunit tous ces gens, on y croit. Et puis alors le 5 décembre, ils vont dire ah bah finalement il y a eu moins de monde que prévu. Eh ben la semaine prochaine il y sera plus, c'est affreux. Ça c'est une douleur horrible.
Ça vous est arrivé ça ?
Ça m'est pas encore arrivé. Je touche du bois et ma tête, mais je suis pas contre le fait de regarder un film sur mon petit écran. Moi ça me déplaît pas au fond.
Et un film à la radio, tiens, vous savez quoi ? On va faire une petite toile maintenant.
You don't remember me, do you?
Remember you the first moment I saw you?
Why the nose, huh? Well, some people just got faces that stick in your mind.
Remember, you were in trouble all the time.
Now you got me.
C'est un court extrait de Sur les quais d'Elia Kazan avec Marlon Brando et Eva Marie Saint que vous avez choisi de partager avec les auditeurs de Boomerang ce matin. Alors avant de nous dire pourquoi, j'aimerais peut-être que vous nous racontiez cette scène que vous avez choisie.
Alors c'est une scène, j'ai pas revu le film depuis très 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 longtemps.
Tant mieux, c'est une scène fantasmée.
Donc c'est une scène fantasmée, absolument. Donc j'ai un souvenir absolument magnifié parce qu'on m'avait raconté ce qui s'était passé pendant la scène, je sais plus qui me l'avait raconté. Bah, c'est une scène où Marlon Brando marche avec Eva Marie Saint, dont il est amoureux, le long des quais, j'imagine, le long de l'eau. Et puis à un moment, elle fait, par inadvertance, elle fait tomber son gant en cuir. Et elle, c'est pas prévu dans la scène. Il y a 15 ans, on ne lui a pas dit de faire tomber son gant. Elle le fait tomber. Alors évidemment, Marlon, qui est acteur studio, hein, oblige, ramasse le gant. Et puis au lieu de le lui rendre comme on imagine qu'il va le faire, il le regarde, il le touche, ce gant en cuir, et il le met et il enfile doigt après doigt sur sa main à lui, le gant. Et c'est d'un érotisme et d'un trouble. Et puis, je crois, dans mon souvenir, que petit à petit, il l'enlève de nouveau, tout en marchant, tout en continuant à jouer sa scène, et il lui rend.
Vous auriez aimé être à la place d'Eva Marie Saint, Diane Curis?
J'aurais aimé être Marlon Brando.
Bon. C'est quoi votre rêve, aujourd'hui?
Oh, J'en ai plein, non, des rêves. Continuer, faire ce métier que j'aime, rencontrer d'autres gens, voyager encore, que mon fils réalise le film qu'il doit réaliser cette année et que ce soit un beau film. J'ai plein de rêves, des petits rêves. C'est pas des grands rêves inaccessibles.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle, Diane, que Ma mère est folle, avec Fanny Ardant, Vianney, Ariel Dombal, Patrick Chenet, entre autres, sort le 5 décembre, qu'il faut y aller. Et tout de suite, c'est l'heure des médias, Sonia De Villers. Juste après, Bachung, évidemment.
J'ai mis du vent. J'ai mis du vent sous mon chapeau. J'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois, ça fait longtemps que je me déguise là-bas. J'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop. J'ai mis du temps à te faire la peau. J'ai mis du vent sur ma moto. J'ai mis du vertige et de l'eau. Tu vois, ça fait longtemps que je me fais peur. Des fois, je me dis que je vais m'enfuir avant l'heure. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. Il y avait des cormorants fixer les falaises au sud de Montevideo. Quelques milliers d'enfants qui chassaient les sirènes. J'ai dérivé jusqu'à Rio.
Montevideo, Bachung, évidemment, journée spéciale sur France Inter, comme le sait, évidemment, Sonia De Villers, parce que c'est l'heure des médias.
Évidemment, évidemment, Augustin et son évidemment.
Oui, c'est un adverbe que j'utilise plus souvent qu'à mon tour, effectivement.
Bon. Salut, à demain.
À demain.